vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien en ce début d'année. Nous vivons dans un monde instable où les conflits armés se multiplient, comme en Haïti, au Soudan, en Somalie, en Ukraine, avec des drames humains reliés avec ces climats d'insécurité. Pourrait-on espérer de bonnes nouvelles en 2025 ou, dans d'autres mots, pouvons-nous envisager des sorties de guerre, comme nous venons de le voir avec la Syrie, où une promesse de paix s'annonce ? Le 5e congrès de la chaire internationale Mukwege sur la violence faite aux femmes et aux filles dans les conflits s'est tenu en décembre dernier à Montréal. Il y a eu également une journée sur les connaissances et le pouvoir dans les conflits armés au 21e siècle organisée par le Centre des études sur la paix et la sécurité internationale. Nous voulons commencer l'année avec l'espoir d'une trêve. Que peuvent nous dire les connaissances scientifiques sur le maintien de la paix tout autour de la planète ? Restez là, nous en parlons tout de suite. Aujourd'hui, à Je vote pour la science, nous penchons sur comment la science pourrait favoriser la paix dans les zones de conflits internationaux. Les guerres meurtrissent les populations civiles, les femmes et les enfants en tête. Comment contribuer à réduire les violences perpétrées par les belligérants et à redonner espoir aux plus vulnérables de voir le retour de la paix? Donc, pour en parler, je suis en compagnie de la professeure Marie Athem, professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, directrice de l'Observatoire IGA pour soutenir l'autonomisation des femmes francophones en santé et aussi la directrice du centre de recherche de la fondation Panzi, ICART, qui cible la cause des femmes victimes de violences sexuelles en tant qu'armes de guerre. Donc cette fondation organise aussi un congrès qui s'est déroulé au mois de décembre. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Donc, dont on va parler ce matin. Je suis aussi en compagnie de Théodore McLaughlin, directeur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale et professeur titulaire dans le département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Muriel Maxain, professeure adjointe au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Donc, bonjour à vous trois, bienvenue. Le récent dénouement en Syrie et la nouvelle année nous donnent envie d'explorer les chances de paix durable. Quelles connaissances scientifiques éclairent les pratiques les plus susceptibles de favoriser la paix ? On pense peut-être à la justice réparatrice, à la réconciliation ou écouter simplement les besoins et les doléances des populations locales. Donc, en cette période de conflit à différents endroits de la planète, nous voulions commencer à diriger la lorgnette de la science sur les conflits, mais aussi le sort des personnes les plus vulnérables, telles que les femmes et les filles. Professeur McLaughlin, j'ai commencé avec vous. C'est quoi un conflit exactement? Quand est-ce qu'on sait que c'est terminé? Et est-ce que c'est le cas en Syrie dont on célèbre le départ de Bachar el-Assad?
Donc c'est une question finalement épineuse.
Oui.
Ça peut paraître dans un premier temps assez clair. On parle d'affrontement armé, de combat. Ça semble être essentiel pour ce qui est d'un conflit armé. Et typiquement, les chercheurs en sciences politiques vont vouloir également insister de voir un agenda politique en arrière de ces violences-là pour les distinguer, par exemple, de guerres de rue entre gangs. Sauf que ces éléments de définition sont problématiques à différents égards. Par exemple, on peut penser à plein de conflits parce qu'il n'y a pas nécessairement d'affrontements armés. Parlant de Syrie, par exemple, dans les années en amont du déclenchement de la guerre civile, il y avait une sécheresse. Et cette sécheresse a donné lieu en particulier à une exacerbation des problèmes de répression par le gouvernement contre des populations, par exemple. Qui va recevoir l'aide alimentaire? Qui va recevoir, quels fermiers vont recevoir des subventions pour maintenir leur ferme dans une période de sécheresse? Et puis donc, ces politiques et différenciations adoptées par le gouvernement pour favoriser ses appuyants et défavoriser d'autres, réprimer d'autres, c'est un geste de violence sans qu'il y ait nécessairement de combat impliqué. Donc, est-ce que la Syrie était foncièrement donc en paix avant le déclenchement d'une guerre civile ouverte en 2011, je pense que c'est difficile de conclure que c'était le cas. Et puis donc de distinguer période de paix, période de guerre, comme chercheur qui cherche à avoir une approche systématique, on a cette tentation-là de vouloir clairement définir, trancher, quand est-ce que ça cesse d'être en paix, quand est-ce qu'une guerre commence. Mais c'est difficile de le faire sur un plan empirique juste pour observer le monde. Et c'est aussi une décision qui est quand même un peu politique aussi.
Ah oui, tout à fait.
Donc, pour l'actualité, avec la on a une victoire d'un groupe rebelle. Hein? Il semble avoir un moment d'espoir, une lueur d'espoir pour le pays. Je le veux bien. On peut quand même se poser des questions si, lorsque le pouvoir est pris maintenant par un groupe rebelle qui a ses origines dans l'islamisme, en association avec Al-Qaïda, même si cette alliance a été rompue. Comme membre de minorités religieuses, par exemple, observant la situation en Syrie, est-ce que ces personnes-là seraient tout à fait à l'aise? Hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'inquiétude par rapport à ce que ça peut pouvoir vouloir entendre pour leur sort et pour la possibilité de répression, même si on peut réjouir d'être débarrassé d'un gouvernement tant répressif?
Oui, entendu. Professeur Marie Atem, est-ce que la science, je pense aux études scientifiques, peuvent favoriser la paix? Est-ce que quelle science pour quelle paix, finalement? C'est une grande question aussi.
Oui, la science pour favoriser la paix. Je pense que c'est mon avis personnel. Ce sont deux concepts extrêmes. La science est concrète, elle est bien organisée, structurée. La paix, c'est un concept qui a traversé les siècles et l'humanité. Et on n'a toujours pas trouvé une solution. Est-ce que la science va pouvoir trouver une solution pour amener la paix? C'est laisser avoir comment l'humanité veut avoir la paix ou pas. Wow. Comment elle veut se faire traverser par la science pour dire non, ça n'a plus de sens qu'on fasse telle ou telle chose. Pourquoi on n'a pas la paix? Pourquoi l'humanité ne veut pas être en paix? Pourquoi on cherche toujours la guerre? Parce que c'est comme si c'était ancré dans l'humain et on ne veut pas s'en détacher. Alors, est-ce que la science va pouvoir amener une solution, une équation qui va dire à l'humain, arrête de faire la guerre? Ça, c'est un point d'interrogation. Il y a beaucoup de recherches qui travaillent sur le domaine de la paix, sur le domaine de la violence, les violences faites aux femmes au cœur de ces guerres-là. Et c'est de différentes disciplines qui sont impliquées. Si on regarde un peu la science, il y a la philosophie, il y a l'ethnographie, l'anthropologie, la sociologie, la politique. Toutes se sont mêlées d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi les dimensions plus médicales, psychologiques, etc., pour cerner différentes dimensions qui entraînent la guerre, qui empêchent la paix, que vivent les personnes qui sont victimes et les bourreaux de la guerre. Donc, il y a tout ça à voir. Et même si on a beaucoup de littérature là-dessus, on n'est pas encore arrivé à une solution. Preuve en est, la guerre est toujours là.
Oui, on va explorer tout ça. Professeur Maxeyn, pouvez-vous nous brosser assez rapidement un survol des impacts des conflits sur la santé des femmes et bien sûr des enfants, notamment les violences basées sur le genre?
Oui, alors c'est une très grande question, mais selon les Nations Unies en 2023, donc c'est quand même assez récent. À peu près plus de 600 millions de femmes et de filles dans le monde, soit 15 fois la population canadienne, vivent dans des zones de conflit. Et c'est au minimum plus de 2500 cas vérifiés de violences sexuelles en zone de conflit, sans compter tous les nombreux cas qui sont non rapportés ou tenus sous silence. Et puis, selon une autre recherche publiée dans la revue de l'ANSET, soit menée justement avant le génocide actuel à Gaza, les conflits armés ont des effets directs et indirects considérables, vraiment sur la santé et la mortalité des femmes et des enfants. Les femmes qui vivent près ou dans les zones à haute intensité de conflits ont trois fois plus de risques de mourir que celles qui sont dans les contextes de paix. Et concrètement, les conflits armés engendrent des blessures physiques très graves à cause des armes à feu, des dispositifs explosifs, y compris des amputations, des traumatismes crâniens et d'autres blessures invalidantes. Et puis on peut aussi penser à des blessures psychologiques. Tout à l'heure, le professeur McLaughlin avait parlé de problèmes de sécheresse et tout ça, mais concrètement aussi, les conflits armés sont une cause majeure de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition aiguë chez les enfants. Alors, les famines modernes sont principalement observées dans les pays en conflit et peuvent être exacerbées en intersection avec les changements climatiques actuels qui se trament aussi un peu partout sur la planète. Alors, notons aussi que les conflits entraînent une augmentation des maladies infectieuses en raison de la détérioration et souvent de la destruction des structures et des services de santé. Ça inclut aussi de l'eau et de l'assainissement. Et puis enfin, pour répondre à votre question concernant la santé des femmes et des enfants, notamment sur les violences sexuelles, incluant les personnes en situation de handicap, ces personnes sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et aux problèmes de santé reproductive pendant les conflits. Par exemple, de ne pas avoir accès adéquat à des services de santé maternelle, obstétrique ou infantile. On peut aussi noter les mariages précoces et forcés, les grossesses non désirées qui augmentent en raison des violations des droits des femmes et des enfants, de l'accès limité aux services de contraception et de l'augmentation des violences sexuelles, dont les viols, qui sont utilisés comme une arme de guerre.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. On va rester dans la santé des femmes et des filles. Professeur Atem, vous avez fait partie du comité d'organisation du 5e congrès de la chaire internationale Mukwege, du nom du médecin Denis Mukwege, qui s'est tenu à Montréal en décembre dernier. S'il vous plaît, rappelez-nous qui c'est ce médecin congolais et parlez-nous peut-être des moments importants de ce congrès.
Okay. Le professeur Mukwege est un médecin chirurgien gynécologue obstétricien qui est originaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a fait sa formation en médecine en Afrique et en Europe. Il a commencé sa pratique dans une période où la guerre, le génocide et tout ça étaient en place. Et il a reçu un jour une femme qui a été gravement atteinte suite à une violence sexuelle liée aux armes. Et il a dû s'engager dans son traitement. Mais après cette femme-là, il a dû s'occuper de quelques dizaines de milliers de femmes victimes de violences dans la région, particulièrement liées au conflit, mais aussi de violences sexuelles basées sur le genre, basées sur la culture, ainsi de suite. Donc, il s'est engagé dans l'accompagnement de ces personnes-là et il a trouvé que soigner physiquement ne suffisait pas. Donc, il fallait les accompagner pour commencer psychologiquement, puis il fallait les réintégrer socio-économiquement, puis il fallait leur donner un peu de dignité légalement, donc trouver une réparation, ce qui l'a amené à créer une institution qui s'appelle la Fondation Panzi. Comment on est arrivé au congrès? Dans ses démarches, le professeur reçoit un doctorat honoris causa de l'Université de Liège. Il avait reçu plusieurs formations en Belgique. En 2018, on lui octroie un doctorat et on crée une chaire de recherche Mukwege International pour étudier cette question de violence sexuelle en temps de conflit ailleurs, les répercussions sur les femmes, les enfants, etc. Et à partir de ce moment-là, on a décidé que toute université qui octroie un doctorat honoris causa au professeur devient membre. Et là, il y en a une vingtaine, dont l'Université de Montréal.
Dans la nôtre.
Voilà. Donc, en 2019, l'Université de Montréal a octroyé ce doctorat et on a rejoint le milieu. Et puis, le professeur, on a un projet de développement avec la fondation financée par Affaires mondiales Canada. Et le docteur m'a donné la responsabilité du centre de recherche parce qu'il tient à la recherche, à la science, pour tabler sur les interventions qu'il fait. Il dit, on fait beaucoup, mais il n'y a rien qui nous dit que ça a un effet, qu'on peut généraliser, qu'on peut aller diffuser. Donc, c'est là la science est arrivée. Et chaque année, la chaire Mukwege International met en place un congrès. Nous avons accueilli ce congrès-là en décembre.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé en décembre? C'était quoi, très rapidement, les moments importants?
Les moments importants, c'était surtout le lancement par le professeur, mettre la table, nous dire c'est quoi le problème. Et puis, ce qui est important, c'est que nous avons développé un concept pour ce congrès-là qui dit qu'on ne veut laisser personne de côté. Donc, toutes les personnes qui sont de proche ou de loin concernées par la santé des femmes, l'autonomisation des femmes, les violences faites aux femmes, les violences faites basées sur le genre, etc. Que ce soit des académiciens, chercheurs, des décideurs, des gens d'organismes communautaires, les femmes elles-mêmes, les artisans et les artistes de paix, tout le monde était invité. Et le congrès a couvert toutes ces dimensions. Donc, les moments les plus importants, ça couvre différentes dimensions. Les conférences plénières par les invités d'honneur, qui étaient de différentes envergures et différents milieux, qui ont couvert différents aspects, mais on a aussi l'expression par les témoignages, par les films documentaires ou autres qui étaient présentés, les ateliers, les conférences des scientifiques et des académiciens, l'échange avec tout le monde, le mot qui passait, waouh, l'interdisciplinarité, regarder les problèmes sous ces différents aspects. Et ce qu'on a amené aussi, c'est que nous étions au Canada, nous sommes au Canada, dit, les Premières Nations vivent beaucoup de violences, particulièrement les femmes. Et nous sommes sur leur terrain. Donc, on a emboîté le pas de l'Université de Montréal et on a décidé de se faire inviter par eux. Donc, c'était l'aîné de la communauté qui était venue lancer le congrès et le clôturer. Et nous l'avons fait autour de la date du 35e anniversaire malheureux de la tuerie qui a eu lieu à la Polytechnique le 6 décembre. Oui. Donc le congrès a été clôturé en cette date avec
les roses blanches et la boursière de cette année. Merci beaucoup. Oui, on va mettre le lien vers justement la page du congrès. Professeur McLaughlin, parlez-nous de votre événement à vous, organisé principalement pour les étudiants gradués, mais sur les connaissances et le pouvoir dans les récents conflits.
Oui, c'est exactement ça. Donc, découle de l'observation générale que des manières de savoir, de connaître des conflits armés sont également des exercices de pouvoir. Donc, le pouvoir de définir, comme on a discuté tantôt, quand est-ce qu'un conflit armé commence et termine? C'est un exercice de pouvoir parce que une fois qu'on identifie une situation comme étant un conflit armé, voilà, c'est une crise, c'est une urgence, il faut agir. Oui. Alors que lorsqu'on n'est pas en période de conflit armé, des pays sont perdus des manchettes, en tout cas, on n'en parle plus. Mm-hmm. Il y a également question de définir les conséquences des conflits pour indiquer si c'est un conflit sur lequel il faut se concentrer, comparativement des conflits qui peuvent être isolés, mis de côté, des situations à laquelle on ne va pas répondre. Donc, les manières de définir sont un exercice de pouvoir. Ce n'est pas neutre, finalement. Et puis, donc, notre colloque, donc ça, c'est une observation qui date de très longtemps. Et heureusement, dans le champ des fois, on voit des initiatives telles que ce congrès dont la professeure Adam a parlé, qui cherche à être inclusif, de rejoindre beaucoup de différents angles, beaucoup de différentes disciplines, comme elle a dit, différents points de vue. Et c'est très important, alors que dans d'autres initiatives ou efforts, il y a plutôt des efforts qui sont un peu top-down, qui viennent souvent de l'Occident, qui viennent de nous.
Hein, appliquer là-bas avec la bonne solution, finalement, une formule à appliquer, c'est ça?
Des formules à appliquer, exactement. Et puis, ça, c'est une observation de longue date maintenant que ce n'est pas nécessairement une approche qui marche. La raison dans l'arrière de notre colloque, c'est que beaucoup de ces savoirs sont découlent d'un monde dans lequel l'ordre mondial libéral, en grande phrase, mais en tout cas, les institutions de l'ONU et menées par l'Occident et tout, définissaient pendant longtemps qu'est-ce qui comptait pour la paix. Dans les années 90, les années 2000, c'était leurs agendas, leurs définitions, et puis beaucoup de cette observation découlait des failles, des difficultés, des lacunes qui ont été là.
Le manque d'écoute, par exemple, des populations locales.
Le manque d'écoute, absolument, arriver avec des formules qui disent il faut être démocratique, il faut
des élections.
Miser sur la démocratie. démocratie au centre du gouvernement, ça c'est l'essentiel, alors que des situations en périphérie, les manières de résoudre ces conflits dans une périphérie d'un pays, pas chez les élites, étaient un peu moins considérées, moins discutées, par exemple. Mais maintenant, on vit dans un monde où cet ensemble d'institutions, d'organisations internationales est mis sous défi. Hein. Ça n'a plus la place qu'elle avait dans les années 90, dans les années 2000. Alors, c'est un moment intéressant de reconsidérer ces questionnements-là. Et puis, malheureusement, il semble que les efforts internationaux vers la paix semblent en beaucoup de difficultés. Alors, qu'est-ce que ça fait pour la politique du savoir? Qu'est-ce que ça fait pour ces exercices de pouvoir que sont les définitions de conflit? Donc ça, c'était un peu la motivation en arrière du conflit.
De votre événement.
De notre colloque, voilà.
Professeur Maxime, vous avez agi comme membre du comité scientifique lors de la conférence internationale de la chaire du docteur Mukwege sur les violences sexuelles. J'aimerais savoir ce que vous avez appris et ce que vous avez constater des similitudes ou des divergences en fait entre les échanges et les discussions. Est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, assez rapidement, évidemment?
Mm-hmm. En fait, ce que j'ai appris, c'est que les femmes, les différents groupes de défense de droits des femmes et des enfants, différentes organisations de la société civile, incluant les juristes, mènent le même combat pour plus d'équité, de justice réparatrice et reproductive. Un peu partout dans le monde. Et puis, en fait, ça, c'est d'une part, mais d'autre part, ces personnes, ces groupes proposent aussi des solutions et des bonnes pratiques de reconnaissance, justement, des contributions des femmes dans la résolution des conflits et le maintien de la paix. Et donc, par exemple, lors de cette conférence dont professeur Atem a parlé, j'ai eu le privilège, justement, de modérer une séance sur le visionnement du film « Casque bleu », qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur Télé-Québec, produit par Louise Leroux et Richard Blackburn, mettant en scène le travail formidable des femmes québécoises, militaires et policières en République démocratique du Congo, lors de formations auprès des forces policières locales, surtout en matière de violences sexuelles perpétrées à l'endroit des femmes et des filles. Et en fait, en Ouganda, où j'ai travaillé, les organisations de personnes en situation de handicap s'organisent aussi pour améliorer l'insertion sociale des femmes et des personnes en situation de handicap en contexte de post-conflit, les capacitant à accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment en matière de VIH-SIDA, santé maternelle, en plus des soins en santé mentale. Et à cet effet, l'ONU Femmes rapporte des résultats très intéressants d'une analyse de 40 processus de paix depuis la fin de la guerre froide et qui montre deux constats. Alors, quand les femmes participent à ces processus de paix, les ententes sont plus durables et lorsque les organisations de la société civile sont aussi impliquées, ces agréments de paix ont moins de chances d'échouer, donc d'avoir plus de risques ou de chances de perpétuer les bonnes pratiques.
Oui, c'est intéressant. Professeur Atem, j'aimerais vous entendre sur la justice réparatrice. Je sais que ça vous tient beaucoup à cœur. J'aimerais aussi que vous nous parliez un peu des recommandations du manifeste. Il y a eu un manifeste au récent congrès à Mukwege.
Oui. Pour la justice réparatrice, il faut qu'on commence par voir c'est quoi la réparation. Et là-dessus, on a l'ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour les femmes, avec différents organismes de développement, se sont entendus à travers différentes réflexions à organiser un cadre donc basé sur la littérature, la science, mais qu'il faut aussi tester. Pour dire que la réparation comprend 5 dimensions à mettre en place. La première, c'est la restitution. Restituer aux personnes, aux victimes, leurs droits, leur situation sociale, leur place dans la société. La réadaptation, leur donner un soutien psychologique pour sortir de cette situation de victime et devenir une survivante qu'on appelle maintenant. L'indemnisation, pour leur donner un petit fond pour redémarrer dans la vie. La satisfaction, c'est-à-dire une reconnaissance publique qu'elles sont victimes et qu'on ait droit à des obsèques, qu'on ait droit à des statuts qui commémorent, qui valorisent les personnes, ainsi de suite. Et la garantie de non-répétition. C'est là où il faut travailler sur les lois, la réglementation, voir qu'est-ce qui a entraîné et qu'est-ce qui entraîne dans un milieu socioculturel et politique ces victimes-là et ces injustices et essayer de les réparer. Et pour y arriver, il faut s'assurer que ces éléments-là sont pris en considération dans une réparation en termes de droit individuel, mais un droit aussi au développement. Ouais. Alors, quand on vient pour réparer, d'accord, on va essayer de donner la place à la société en général, mais on oublie la réparation individuelle. Donc, pour arriver à la justice, il faut les deux dimensions qui impliquent plus les gouvernements des pays. Donc, c'est tous les enjeux politiques.
Oui. Professeur Maxine, rapidement, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vos recherches sur le terrain.
Oui, en fait, les résultats de mes travaux de recherche dans la région de post-conflit au nord de l'Ouganda, justement la région qui a été la plus touchée par plus de 20 ans de conflits armés, montrent que les impacts du conflit, bien qu'ils soient cessés, ces impacts-là persistent toujours auprès des groupes de personnes en situation de handicap. Et en fait, les participants à l'étude avaient mentionné que l'accès aux services de santé sont pires pour les personnes en situation de handicap, qui sont confrontées à de multiples barrières structurelles et physiques d'accès aux structures sanitaires, parfois encore en rénovation ou pas du tout à la suite de leur dégradation. Et puis lorsque les gens devaient fuir, les combattants, les personnes en situation de handicap, selon leur dire, étaient souvent laissés derrière. Les femmes subissant des viols ou les enfants devenant des chefs de famille, des parents qui ont été heureusement, les répondants à l'étude ont proposé quand même plusieurs mesures de changement, telles que plus de formation des professionnels de santé pour rendre leurs services beaucoup plus accessibles, mais aussi de collecter plus de données pour documenter leur situation afin de tenir les décisionnaires et les gestionnaires de services imputables à leur action ou à leur inaction. Donc, ce travail de longue haleine de documentation est essentiel.
Mmh. Oui, oui. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Muriel Maxine, professeure adjointe au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, de Théodore McLaughlin, directeur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale aussi à l'Université de Montréal, et la professeure Marie Atem, professeure à l'École de santé publique, directrice de l'Observatoire IGEA pour soutenir l'autonomisation des femmes francophones et aussi directrice du Centre de recherche de la Fondation Panzi et organisatrice donc de cette chaire. On vous mettra le lien du congrès de la chaire internationale Mukwege, dont on mettra le lien là, de la chaire sur la violence faite aux femmes et aux filles dans les conflits. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, le micro, la réalisation Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager et vous pouvez suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique, et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome.